Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, comme tu le dis, Jérôme, j'ai construit, on peut dire, ma carrière sur l'histoire du droit du travail. J'avais fait une thèse sur le droit des relations collectives de travail pendant le régime de Vichy, que j'ai ensuite prolongée avec des travaux sur la protection sociale, sur les institutions représentatives du personnel, sur l'humanitaire aussi. Là, je me suis un peu déplacé en dehors du champ du droit. Et puis, vers la fin des années 2000, je me suis dit que, avec d'autres, et pas que des juristes, des politistes, des sociologues, des historiens, on avait fait beaucoup de choses sur l'histoire du droit du travail et qu'il fallait un peu renouveler nos approches. Donc moi, j'ai pris le temps de réfléchir et je me suis dit qu'il y avait deux points qui me semblaient être un peu obscurs du point de vue savant. C'est tout ce qui concerne le droit du travail dans le secteur public, parce qu'il existe du droit du travail dans le secteur public qui a une histoire et qu'on connaît très mal. Donc j'ai lancé notamment une thèse là-dessus qui vient d'être soutenue là, il y a 2 mois. Excellente thèse au demeurant. Et puis l'autre aspect, c'était les colonies. Parce que juste avant à la Deuxième Guerre mondiale, eh ben, il y avait en France métropolitaine à peine 40 millions d'habitants et environ 60 millions d'habitants dans les colonies. Et il y avait un droit du travail, une réglementation du travail très, très méconnue. Et donc j'ai lancé ça a pris un peu de temps, mais c'était en 2013, je crois, j'ai lancé un programme de recherche sur l'histoire du droit du travail dans les colonies. Et j'ai réuni une équipe, d'ailleurs Philippe, qui assiste et qui a aussi co-organisé cet après-midi. On a fait partie, une équipe, au départ on était 15 ou 16, je ne sais plus, sur cette question. On s'est réunis une première fois, une deuxième fois, on s'est répartis les territoires. J'ai une thésarde qui s'est occupée du Maroc, j'ai des collègues de Lille qui se sont occupés de la Tunisie, Dominique Torisson s'est occupé de l'Indochine, moi-même du Cameroun, etc., etc. Et donc, chacun a rendu un rapport territorial. On a appelé ça comme ça, faute de mieux. Par exemple, Philippe s'est occupé des Antilles et de la Guyane. Et à partir de ces rapports territoriaux, qui sont disponibles, pas tout de suite, mais enfin, on peut les trouver à la mission Droit et Justice qui a financé ce projet ou auprès des auteurs eux-mêmes, j'ai bâti un rapport général, mais dont je ne suis pas très content parce que, comme certains collègues n'ont pas fini leur travail, ne me l'ont pas rendu, c'est un peu un travail à trous, quoi. J'ai dû faire avec des trous et vous savez bien, c'est jamais facile de travailler dans ces conditions-là. Mais enfin bon, en tout cas, le rapport a été rendu. À la suite de ce rapport, il faut maintenant, depuis 2 ans, on cherche à valoriser le travail qui a été fait. Donc, il y a quelques articles que j'ai écrits, mais pas que moi, Florence Renucci, Dominique Thorisson-Mouret, etc. Il y a une base de données sur laquelle je me permets de dire un mot parce que ça peut intéresser certains d'entre vous. Je pense aux doctorants, parce que c'est une base de données qui est très bien faite, mais qui est malheureusement incomplète parce que la personne très compétente qui s'en occupait, son contrat n'a pas été renouvelé, faute d'argent, mais on y trouve sur cette base de données qui s'appelle HDT-COL, HDT-COL, et vous pouvez me demander l'accès, je vous le donnerai volontiers. On trouve 1 200 documents à peu près, certains qui vont jusqu'à 800 pages. C'est une base de données qui contient à la fois des imprimés et des archives proprement dites, et qui est tout à fait riche. Dernière chose peut-être, c'est que ce travail a donné lieu à un livre qui est terminé déjà depuis pas mal de temps et qui là est en train de part... Il a été corrigé déjà deux fois, mis en page, etc. Et il part chez l'imprimeur ces jours-ci et il sortira en mai parce que les éditeurs, et notamment celui-là, les presses universitaires de Rennes, ont pris du retard à cause de la pandémie et qu'ils étalent les sorties des ouvrages dans le temps. Voilà, alors moi je vais limiter, compte tenu du sujet qui est le sujet de votre séminaire, je vais limiter mon intervention à la fois dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, je vais commencer à, disons, au tournant du 19e et du 20e siècle, sachant que avant cette période-là, il existe un droit du travail dans les colonies, mais ce droit du travail, il concerne ce qu'on appelle les vieilles colonies, c'est-à-dire les Antilles, la Guyane et l'île de la Réunion. Et ces territoires, ces vieilles colonies, ont été investigués par notamment Philippe Auvergnon, qui, dans le livre dont je viens de parler, dont je n'ai pas donné le titre, qui s'appelle La Chicotte et le Pécule, il y a le sous-titre Les travailleurs face au droit colonial français 19e, 20e siècle. Donc, dans ce livre, Philippe a fait un article excellent, au demeurant, avec une collègue de La Réunion qui s'appelle Delphine Cône. Donc, je limite mon. Je ne parlerai pas donc des vieilles colonies, pour ne parler que des colonies dites d'exploitation. Et du point de vue. Donc, je m'arrêterai en gros aux indépendances, un peu après le Code du travail d'outre-mer de 1952. Et du point de vue géographique, d'un point de vue géographique, je ne traiterai, enfin en tout cas je ne prendrai des exemples que en Afrique subsaharienne, et donc je ne parlerai pas des protectorats, des mandats, sauf du mandat français au Cameroun et au Togo, qui est tout à fait différent de l'autre mandat que la France avait au Liban et en Syrie. Je vois que Jean-Pierre Laborde nous a rejoints. Bonjour Jean-Pierre. Donc voilà, une remarque générale néanmoins, avant d'entrer dans le détail, l'ensemble des colonies, qu'elles soient d'exploitation, de plantation, de peuplement, que les colonies soient dépendantes du ministère des colonies qui deviendra le ministère de la France d'outre-mer ou du ministère des Affaires étrangères, l'ensemble des colonies répond à un principe, la promulgation des textes répond au principe de la spécialité législative. Cela veut dire que si un texte est adopté en France, il n'est pas, et qu'on dit il est applicable dans les colonies et en Algérie, en fait, il ne l'est pas directement. Il faut un autre texte, généralement un arrêté du gouverneur du territoire concerné pour le faire passer dans le droit du territoire en question. Ça s'appelle donc la spécialité législative et ça vaut pour l'ensemble des colonies, quel que soit leur statut. J'en arrive donc à mon développement. Je vais distinguer trois moments dans l'histoire du droit du travail dans les colonies d'exploitation donc africaines. Un premier moment qui ira de la fin du 19e jusqu'à 1919. 1919, c'est la fin de la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi la création de l'Organisation internationale du travail qui joue un rôle tout à fait important. Enfin, on peut en discuter, mais si vous voulez, ça peut être dans la discussion, ça peut être intéressant. Donc, création de l'OIT, de la Société des Nations aussi. Deuxième moment. De la fin de la Première Guerre mondiale, donc 1919, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1945. Moi, je mets ensemble l'entre-deux-guerres et la période de la Deuxième Guerre mondiale, même s'il y a effectivement des différences, mais pas suffisamment importante pour couper mon propos. Et la troisième partie ira donc de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 1944, et notamment ce qui se passe à la conférence de Brazzaville, début 1944, jusqu'aux indépendances. Le Code du travail d'outre-mer, c'est 50, je me trompe toujours entre 51 et 52, et donc les indépendances qui s'opèrent entre la fin des années 50 et le début des années 60. Sur la première partie, je ne dirai pas grand-chose. Je dirais simplement que en 1911, il a été mis en place une commission sur le régime du travail dans les colonies à Paris, rue Oudinot, qui était l'endroit où se trouvait le ministère des colonies. Donc il y a eu quelques enquêtes, quelques rapports. Charles Gide, par exemple, l'économiste bien connu, qui a fait un rapport. Mais ces rapports, ils étaient très centrés sur encore les vieilles colonies. Mais à côté de ça, il y a eu une enquête qui a été faite par questionnaire auprès des gouverneurs des colonies françaises, enquête dans laquelle on leur demandait est-ce que les trois lois suivantes vous semblent applicables dans les colonies? Alors les trois lois en question, c'était la loi de 1884, bien connue évidemment, sur les syndicats, la loi de 1898 sur les accidents du travail et la loi de 1907 sur les conseils des prud'hommes. Les gouverneurs, donc interrogés à ce sujet, répondent tous ou quasiment tous, et sur l'ensemble des sujets, ou quasiment sur l'ensemble des sujets, que l'importation ou le transfert de ces trois textes dans les colonies n'aurait aucun intérêt parce que les conditions ne sont absolument pas réunies, il y a très peu de travailleurs salariés et que pour eux, ça ne veut à peu près rien dire. Deuxième point sur cette première période, il existe néanmoins quelques décrets et arrêtés dans certains territoires avant la Première Guerre mondiale. Par exemple, il y a en AEF un décret qui date de 1911 qui rend obligatoire le contrat pour tout engagement supérieur à 3 mois. Mais ça ne concerne que très peu de gens parce que, en réalité, il y a très peu de contrats supérieurs à 3 mois dans la mesure où les travailleurs sont la plupart du temps des journaliers. En Indochine, à peu près à la même période, en 1910 et 1911, il y a aussi des décrets qui concernent d'ailleurs le même sujet, qui concernent le décret, c'est un décret sur ce qu'on appelle le délit d'emport d'avance. Le délit d'emport d'avance, c'est un délit qui, c'est très intéressant, il y a une collègue de Montpellier qui s'appelle Martine Fabre, qui a fait d'ailleurs un papier là-dessus il y a quelques années. Vous savez, on dit souvent, quand on parle aujourd'hui des phénomènes migratoires, on pense évidemment aux migrations sud-nord. Quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que les migrations étaient aussi beaucoup sud-sud, c'est-à-dire des régions souvent peuplées en Chine, dans le nord de l'Indochine, vers des régions moins peuplées, par exemple le sud de l'Indochine, ou la Réunion ou Madagascar, etc. Et donc, il y avait ce qu'on appelait des contrats d'engagement. Donc, c'était des contrats de travail à long terme, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça pouvait aller même jusqu'à 5 ans. Et généralement, on fournissait des avances aux travailleurs, donc soit des avances en argent, soit des avances en nourriture, soit des avances en outils. Et le problème, c'est que quand les gens arrivaient sur leur lieu de travail, les désertions étaient souvent très nombreuses. On reviendra sur les raisons. Mais en raison notamment des conditions de travail, et il y avait beaucoup de fuites, et les fuites se faisaient en emportant les avances, notamment d'argent. Et le patronat, notamment indochinois, a beaucoup fait pour faire en sorte de pénaliser comment dire, cette attitude, sachant que la Cour de cassation avait expliqué que ça, c'était pas pénal, ça pouvait se caractériser par de l'abus de confiance, mais on n'était pas dans du droit pénal. Et finalement, le lobbying fait par le patronat indochinois a réussi à créer un délit d'emport d'avance qui a d'abord été créé en Indochine et ensuite a essaimé dans d'autres territoires, notamment en Afrique, pour être généralisé en 1932. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur cette première période. Pour la deuxième période, 1919-1944, je crois qu'on peut retenir trois idées. La première idée, c'est qu'il n'y a pas de distinction bien nette entre le travail libre et le travail forcé. Pour ce qui concerne le travail libre, dans un premier temps, à partir donc du début des années 20, il y a des décrets qui sont pris en Afrique, mais territoire par territoire. Donc, on va avoir un décret pour le Cameroun, on va avoir un décret pour le Togo, on va avoir un décret pour l'AEF, Afrique équatoriale française, un autre pour l'AOF, Afrique occidentale française, etc., etc. Il n'y a pas, c'est très important, il n'y a pas de législation commune à l'ensemble des territoires. Donc, dans les années 20, plutôt en Afrique, dans les années 30, plutôt en Asie, c'est-à-dire en Indochine, en Inde française, Madagascar aussi, dans les années 30. Ces décrets concernent les travailleurs indigènes. Je mets des guillemets, bien évidemment, mais c'était le terme qui était employé jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et après, on va substituer ce mot, pas très heureux, à celui de autochtone. Alors, ces décrets, ils ont une double fonction, je dirais. Ils ont une fonction protectrice. Assurément, ils ont une fonction protectrice, c'est-à-dire que ils éditent des règles sur la durée du travail, le travail des enfants, le travail de nuit, etc., etc. Avec deux particularités, c'est que les salaires, contrairement à ce qui se passe en France métropolitaine, les salaires sont fixés en référence à ceux des salariés qui travaillent pour l'administration coloniale. Donc, il y a le salaire, en fait, est fixe. Il y a une sorte de salaire minimum, en réalité, qui est faible, mais il y a une sorte de salaire minimum. Et l'autre aspect, c'est que ces décrets, cette réglementation, elle est très précise sur ce que doivent contenir les contrats de travail. Par exemple, sur l'alimentation, sur les logements, etc. C'est très, très précis. Donc, il y a une fonction protectrice et il y a aussi une fonction répressive. C'est-à-dire que, là, je parle du travail libre, le travail libre s'accompagne de sanctions pénales. Qui reste en vigueur très longtemps dans les colonies françaises, à la différence de ce qu'on peut voir dans les colonies britanniques. L'OIT, d'ailleurs, va se saisir du problème en 1937. Il y a une convention sur le travail indigène, je remets les guillemets, qui traite assez abondamment de cette question des sanctions pénales. Donc, on a d'un côté le travail libre et d'un autre côté le travail forcé, en tout cas différentes formes de travail forcé. Moi, je distingue, même si c'est la taxinomie est quand même un peu pas évidente parce qu'il y a du flou, mais moi, je distingue trois types de travail forcé. D'abord, le portage à dos d'êtres humains, qui fait l'objet d'un certain nombre d'arrêtés dans pratiquement toutes les colonies, et ceci avant même la Première Guerre mondiale. Ces arrêtés, ils disent on ne peut pas faire plus de tant de kilomètres par jour, le poids ne peut pas être plus élevé que, généralement c'était 15 kilos, ça pouvait être un peu moins. Les arrêtés prévoyaient aussi la rémunération des porteurs. Donc ça, c'est une première catégorie de travail forcé, parce qu'évidemment, au début de la colonisation en Afrique, il n'y a pas beaucoup de routes, il n'y a pas beaucoup de trains, etc. Donc les transports se font beaucoup à dos d'animaux ou d'êtres humains. Au fur et à mesure que le temps passe, eh ben, y a des routes qui se construisent, il y a des chemins de fer, et donc le portage diminue, mais ce qu'on voit apparaître, c'est la réquisition. La réquisition, c'est un terme qui va plutôt être employé pour la construction des chemins de fer. Et là, on a des, il y a des comment dire, des choses qui sont bien connues, c'est enfin bien, assez bien connues, parce que des écrivains célèbres comme André Gide, par exemple, ou comment il s'appelait, le journaliste très, très connu, Pierre d'Ébène, je ne me souviens plus de son nom, en ont parlé abondamment. C'est le problème de la double. Il y a un double problème, c'est que la plupart des gens, c'est du travail forcé, la grande majorité des travailleurs sont en travail forcé, et que dans certains endroits, la mortalité est absolument incroyable. Sur le chemin de fer Congo-Océan, en 1928, il y a eu 2600 morts. 2600 morts. Sur l'ensemble de la période de construction du chemin de fer Congo-Océan, entre 1921 et 1934, il y a eu 15 000 morts. Alors, donc, travail forcé pour le portage, pour les réquisitions, et aussi pour les prestations. Alors, les prestations, c'était... le gouvernement français disait, mais c'est pas du travail forcé. C'est un peu comme l'impôt vicinal en France. D'ailleurs, ça peut être racheté. Les gens peuvent racheter leur... C'est donc un impôt. Les prestations étaient surtout destinées à l'entretien des routes. Et au fur et à mesure que le chemin de fer gagne en importance, les prestations diminuent un petit peu. Alors, du point de vue juridique, l'OIT, dont j'ai souligné l'importance dans mon introduction, va se saisir du problème et adopter une convention est-ce qu'on dit adopter une convention? Peut-être pas. Il y a une convention sur le travail forcé, en 1930. Sauf que la France ne la signe pas. La France refuse de la signer parce qu'elle, justement sur la question des prestations, qui est un de ses arguments pour dire mais non, c'est pas du travail forcé. Alors, cette convention, elle limite de manière drastique le travail forcé aux seuls travaux d'intérêt public et dans des conditions très draconienne, mais donc la France refuse de la signer, et il faudra attendre l'arrivée du Front populaire, plus exactement 1937, pour qu'elle signe, qu'elle adhère en fait à la convention, sauf qu'elle met des réserves, comme elle en a le droit, et en fait les choses continuent du point de vue du travail forcé, comme avant, d'une certaine manière, et même s'empire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des témoignages, notamment de gouverneurs, le gouverneur Raphaël Saller de la côte française des Somalis, donc aujourd'hui Djibouti, ou de André Latril, qui était le gouverneur de la Côte d'Ivoire, dont la lecture est très saisissante. Latril, qui est pourtant le gouverneur de la Côte d'Ivoire pendant la Deuxième Guerre mondiale, il compare la situation des travailleurs ivoiriens dans les plantations de cacao notamment, à celles qui existent dans les camps nazis. Il le met noir sur blanc. Et il est gouverneur de la Côte d'Ivoire. Donc, j'ai distingué le travail libre et le travail forcé, mais il faut introduire une troisième caractéristique, c'est que la distinction qui existe bien d'un point de vue juridique entre les deux, entre le travail libre et le travail forcé, en réalité, comment dire, je n'arrive pas à trouver le mot, elle est factice. Il y a énormément de témoignages, alors moi je me suis principalement consacré au Cameroun, mais qui montrent le flou qui existe dans la taxinomie des activités de travail dans les colonies. Alors je pourrais, le problème c'est que je n'ai pas beaucoup de temps, mais quand j'en parle, je prends souvent un exemple, j'en ai quatre ou cinq qui sont très parlants, mais je prends l'exemple, alors je vais essayer de résumer parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais il s'agit d'un rapport d'un inspecteur des colonies. Au ministère des colonies, il y avait ce qu'on appelait une direction du contrôle, une sorte d'inspection générale, si on peut dire, et ils avaient donc des inspecteurs qui se rendaient dans les territoires et qui passaient 6 mois et qui faisaient des enquêtes très approfondies et souvent très intéressantes. Donc là, c'est un inspecteur qui s'appelle Tupinier qui va au Cameroun en 1939. Donc on est après la période du Front populaire qui a vu quelques avancées, notamment sur la question de. Enfin, ça dépend des territoires et je ne peux pas trop développer dans le détail, mais en tout cas au Cameroun, ils avaient créé, dans d'autres colonies aussi, des offices régionaux du travail. Et donc, le Tupinier se rend au Cameroun et notamment, il passe pas mal de temps dans une région du nord du Cameroun qui s'appelle le Noun. Et là, il dit que dans les 2 années qui précèdent, 37-38, donc, il y a 9 000 personnes qui ont été embauchées, mais il dit que c'était du travail forcé. C'est-à-dire que les administrateurs coloniaux, donc au Cameroun, on appelait ça des chefs de circonscription ou des chefs de subdivision, en Afrique occidentale, c'était plutôt, on disait les commandants de cercle, en fait, c'est eux qui recrutaient la main-d'œuvre pour les entreprises privées qui leur demandaient de manière très très assidue de la main-d'œuvre parce que souvent ce qui se passait en Afrique, alors ça dépend des territoires, mais c'est que le problème principal c'était le manque de main-d'œuvre. Donc, Tupinier raconte qu'on encordait les gens, qu'il s'agissait bien du travail forcé et que tout le monde le savait. Et cette distinction qui était déjà très très problématique pendant l'entre-deux-guerres, disparaît pratiquement complètement pendant la Deuxième Guerre mondiale, si j'en crois les rapports des deux gouverneurs dont j'ai parlé tout à l'heure, Raphaël Saller et André Latril. J'en arrive à ma troisième période, j'espère que je suis encore à peu près dans les clous. Ouais, à peu près.
Largement, très largement.
Oui, alors, la troisième période, moi je la fais débuter avec la conférence de Brazzaville qui a lieu fin janvier, début février 1944. Alors tout le monde n'est pas d'accord avec moi. J'ai un collègue, par exemple, un historien sénégalais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Babacar Fall, qui est un historien du travail, du travail en Afrique, particulièrement en AOF et encore plus particulièrement au Sénégal. Lui, il dit, la conférence de Brazzaville, c'est beaucoup des mots, quoi. Je ne suis pas trop d'accord parce que les mots ont leur importance, je pense. Alors, je situe la conférence de Brazzaville. Elle est organisée par le Comité français de libération nationale, présidé donc par le général de Gaulle. La conférence porte sur l'ensemble des questions coloniales, l'éducation, l'agriculture, etc. Mais il y a une attention particulière qui est portée à la question du travail. Et ce qui est important dans cette conférence, c'est à la fois les discussions qu'ont les gens, mais aussi les rapports qui sont venus alimenter les discussions, dont les deux que j'ai parlé tout à l'heure. Alors, cette conférence, elle aboutit à un certain nombre de décisions. Alors, c'est vrai, Babacar Fall a raison, c'était pas des décisions immédiates, il a fallu attendre un peu de temps, etc. Mais quand même, au bout du compte, ça donne quoi? Ça donne la reconnaissance du droit syndical, qui avait été vaguement, droit syndical qui avait été vaguement admis dans certaines colonies, comme le Sénégal par exemple, déjà sous le Front populaire, mais ce n'était pas du tout généralisé. Et à mon avis, ça change beaucoup les choses parce qu'on passe des relations de travail qui sont des relations purement individuelles à des relations qui sont également collectives. Et évidemment, ça change les choses. La deuxième décision importante de la conférence de Brazzaville, c'est la suppression du travail forcé. Alors, il faudra attendre un petit peu de temps parce qu'il y a les employeurs, notamment en Côte d'Ivoire, qui résistent beaucoup parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre, que les récoltes vont se perdre, etc. Et puis, il y a la question des sanctions. Il faut attendre le début des années 50 pour que ce soit accompagné de sanctions. Et la troisième décision importante, c'est la création d'une inspection générale du travail outre-mer. Et parce que il existait avant des inspections du travail, si on peut dire, dans certaines, enfin dans, même dans toutes les colonies, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de corps d'inspection du travail. Les inspecteurs, c'était des administrateurs coloniaux, c'était des médecins, mais ils n'avaient pas été formés pour ça. Et donc là, à partir de 1944, bon, ça va être un peu progressif, mais il y a une section sociale de l'école coloniale qui forme des inspecteurs du travail. Et il y a une partie, donc ils sont formés, c'est un corps. Et en plus, ce qui se passe, c'est que même si ça va faire l'objet de pas mal de bagarres, ils n'ont plus à rendre compte au gouverneur de la colonie, mais ils rendent compte directement au chef du service qui s'en occupe, qui est d'ailleurs une femme, ce qui est rare en tout cas au ministère des colonies, qui s'appelle Lucrèce Guelfi. La création de l'inspection du travail est un élément important de cette histoire. Et à la suite de ça, donc, ce qui marque aussi un point important de cette période de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les trois textes que je vous ai cités, ces trois textes sont des lois, c'est-à-dire qu'elles s'appliquent dans tous les territoires. Donc on change de méthode. Il n'y a plus un texte au Cameroun, un texte en Indochine et un texte en AOF. Les lois valent pour l'ensemble des territoires, même si évidemment il y a des décrets ou des arrêtés même qui peuvent adapter des textes généraux à tel ou tel territoire. Et puis enfin, on arrive au début des années 50, donc je vous dis, à chaque fois je me trompe, je n'arrive jamais à me souvenir si c'est 1951 ou 1952, mais en tout cas, est voté à cette période le Code du travail des territoires d'outre-mer. Alors, ce code, qu'est-ce qu'on peut en dire? D'abord, un point, comment je vais présenter ça? Premier point, c'est un document, c'est donc un code du travail, qui n'est pas une compilation comme les codes, les différents exercices dits de codification qui ont été faits en France métropolitaine, à la fois entre 1910 et 1925, puis en 2000. En 1000, attendez, que je ne dise pas de bêtises. La deuxième codification, ça doit dater des années 80, peut-être. Et puis il y en a eu une troisième dans les années 2008, par là. Ça n'a jamais été véritablement des codifications. Paul Durand disait que c'était des compilations. Là, c'est un vrai code du travail, mais qui est très inspiré de la législation métropolitaine. C'est-à-dire qu'on a des conventions collectives, on a des dispositifs d'arbitrage, etc., etc. C'est très inspiré de la législation métropolitaine, mais il y a quand même quelques différences. Par exemple, il n'y a pas de conseil des prud'hommes, mais il y a des tribunaux du travail. Alors la différence, c'est que le conseil des prud'hommes, en tout cas, j'ai dit qu'à une époque récente, comme vous le savez, les gens étaient élus, alors que les tribunaux du travail, les gens sont nommés. par les organisations patronales et syndicales. Dans le Code du travail d'outre-mer, il n'y a pas de comité d'entreprise, mais il existe des délégués du personnel. Bon, voilà, donc il y a quelques différences, mais grosso modo, l'inspiration, elle est métropolitaine. Et c'est là où j'en arrive à un élément qui, d'une certaine manière, va me faire conclure et qui, je l'espère, pourra susciter la discussion, c'est que quand on lit les débats, alors il y a eu des travaux qui ont été faits, notamment il y a un livre de Omar Gaye, un historien sénégalais, et puis il y a aussi notre collègue nantais Augustin Heymann qui a un peu travaillé là-dessus. Quand on regarde les débats au Sénat et à l'Assemblée nationale, on voit bien qu'il y a deux méthodes, enfin deux manières de penser les choses. Il y a une manière qui est, comment dire, favorable au transfert de textes protecteurs qui ont un caractère, avec une pensée, comment dire, universaliste. C'est-à-dire que ce qui vaut, les textes protecteurs qui valent en Occident, il n'y a pas de raison qu'ils ne valent pas aussi dans les colonies et en Afrique en particulier. Et puis, il y a un autre point de vue qui est notamment défendu par le patronat colonial qui est très bien représenté au Sénat, mais aussi à l'Assemblée nationale, et qui émane notamment d'un groupe qu'on connaît peu, mais qui mériterait une thèse, par exemple, largement, qui s'appelle l'Union coloniale française, qui joue un rôle majeur de lobbying, y compris à des périodes où les syndicats de salariés n'avaient pas le droit de citer. Il n'y a pas que ces députés, il n'y a pas que ce lobby colonial qui dit ça, mais en gros, l'idée, c'est faut partir des réalités du terrain. On ne travaille pas de la même manière à Bamako et à Roubaix. Voilà. Et cette discussion, qui est donc une discussion politique au sein des instances parlementaires, elle se double d'une réflexion plus scientifique, on va dire scientifique, qu'on retrouve par exemple dans un numéro de la Revue internationale du travail. Qui paraît juste après ou pendant la discussion du Code du travail d'outre-mer. C'est un numéro qui est consacré au travail en Afrique. Enfin, en tout cas, il y a deux articles. Deux articles de deux missionnaires. Il y en a un premier qui s'appelle le révérend père Charles. C'est un prêtre, missionnaire, belge et anthropologue. Et lui, il dit. Mais lui, il est plutôt. Alors, il ne se réclame pas d'une pensée patronale, mais il est plutôt des acquis de l'anthropologie en disant, mais on ne peut pas adapter les mêmes règles en Afrique et en Occident, ce n'est pas possible. Le rapport au travail n'est pas le même, le rapport à la terre, le rapport au collectif n'est pas le même. Il faut adapter à la réalité du terrain. Il prend un exemple, c'est sur le droit syndical. Il dit, mais pour un Africain, ça veut rien dire le droit syndical. Il dit, pour les Africains, les travailleurs africains, le patron, c'est le père. Ce n'est pas un adversaire, c'est un protecteur. À côté de ça, il y a donc une autre missionnaire, une femme cette fois-ci, une juriste, docteur en droit, qui s'appelle Marie, elle s'appelle Marie-Andrée du Sacré-Cœur. Et elle a dit le contraire. Je ne sais pas s'ils se sont concertés, ça m'étonnerait, parce qu'il n'y a pas, ça renvo... là, y a pas un article qui renvoie à un autre, mais elle a dit, mais faire référence à la coutume, etc., c'est pas bien, parce que la coutume, elle a d'énormes défauts, et notamment vis-à-vis des femmes. Et là, c'est une sœur, hein, c'est une femme, mais donc une religieuse, mais elle a un point de vue quasiment féministe, en disant on a besoin d'importer des textes qui ont une valeur universelle pour défendre notamment les femmes. Je signale au passage que cette religieuse, Marie-Andrée du Sacré-Cœur, a publié sa thèse qui s'appelle La condition humaine en Afrique noire chez Plomb dans les années 50 et que c'est un bon livre. Donc voilà ce que je peux dire. En finissant comme ça, oui, je disais, je pense, enfin, j'espère en tout cas susciter la discussion parce que il me semble que ces questions d'universalisme ou de partir des réalités locales, elles sont encore actuelles. J'ai le souvenir d'un article fort intéressant d'Alain Supiot sur cette question qui lui fait partie de ceux qui disent on a à apprendre des autres continents et notamment du continent africain. C'est d'ailleurs à partir de cette réflexion qu'il a créé l'Institut d'études avancées à Nantes. Et donc, je pense que le fait de rappeler l'évolution historique de ces questions peut être utile au débat d'aujourd'hui. Je vous remercie.